Je vous invite à prendre vos Bibles et à retrouver avec moi Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Je vais relire ces belles paroles de cette prière qui commence au verset 9. Si vous voulez bien le relire avec moi. Colossiens 1, verset 9, écoutant la parole de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jusqu'ici, la parole sainte de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière le contexte de cette prière. Le contexte, c'est une prière pour les vrais saints en Jésus-Christ, une prière qui est motivée par une confiance dans la puissance de l'Évangile et qui a pour objectif de voir une croissance visible dans la vie de ses croyants. Et puis nous avons considéré aussi le contenu de cette prière. C'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure le plaisir de Dieu. Voici ce qu'est la croissance dans l'Évangile. C'est une prière pour un discernement spirituel. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et puis, c'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien. Pour, verset 10, marcher d'une manière digne du Seigneur. Et puis, c'est une prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien et ainsi procure quoi? Ce que nous cherchons en tant que croyants. Le plaisir de Dieu. Il dit au verset 10, et lui être entièrement agréable. Nous ne sommes pas tous agréables au même niveau à Dieu et à tout moment. En Christ, nous avons la rédemption. Dans ce sens, nous ne pouvons pas plaire à Dieu plus que Christ le fait. Mais dans notre marche, nous pouvons plaire à Christ ou nous pouvons attrister même le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, nous voulons juste continuer ce qui suit et voir les caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu. C'est à partir là du verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qu'il dit après? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient, rendez grâce au Père. Alors, je dois commencer avec quelques détails technique. Mais nous avons entendu hier soir que Dieu aime même les détails. Et je crois que ces détails vont s'avérer très bénéfiques pour vous et vous n'allez pas regretter l'attention que je vous demande de prêter à ces détails. Et en fait, tout le passage va ouvrir, va se faire comprendre. Si vous essayez de suivre la logique de ce passage, l'Esprit de Dieu nous donne quatre caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu. Mais malheureusement, dans notre traduction française, les quatre caractéristiques ne sont pas données de manière parallèle, donc on ne les voit pas facilement en lisant le français. Mais dans la langue originale, les quatre caractéristiques sont des participes présents. Donc en français, les participes présents terminent presque toujours, je crois, en ANT. Hein, donc on parle de manger, on dirait mangeant, boire, buvant, dormant, voilà, etc. Et nous avons donc quatre mots en grec qui terminent ainsi. Et je vais vous les montrer ici. C'est dans la Bible, ce qu'on appelle la Bible annotée, qui est parue à la fin des 19e siècle. Et c'est la seule tradition, en tout cas c'est la première traduction que j'ai trouvée, où nous voyons bien facilement que ce sont des participes présents. Alors il dit « Afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. » Donc voici la première chose. « Portant du fruit d'ici en toute bonne œuvre. » Portant du fruit, ça serait donc la première chose. Et croissant dans la connaissance de Dieu, ce serait donc la deuxième chose. Et puis, le troisième caractéristique d'une vie qui plaît à Dieu, parce qu'il vient de dire, lui être entièrement agréable, c'est d'être en étant fortifié en toute force par sa puissance glorieuse. Et le dernier, là, au verset 12, encore le même style, rendant grâce au Père. Voilà, donc portant, croissant, étant fortifié et rendant grâce. Et si vous avez la NEG, voici les mots que vous pouvez même numéroter. Et si vous le faites, vous allez le retrouver plus tard. Franchement, je travaillais ce texte la semaine dernière et j'ai ouvert ma Bible que j'utilisais quand j'étais à l'université, donc il y a plus de 20 ans. Et là, en regardant ces passages, j'ai vu que j'avais ces quatre mots entourés et numérotés. 1, 2, 3, 4. Et donc, le passage est ouvert pour moi. Donc, vous voyez, si vous le faites aujourd'hui, peut-être dans 20 ans, vous allez le retrouver, vous allez être reconnaissant de l'avoir fait. Je sais même pas si c'était une prédication ou un commentaire que je lisais qui m'a montré cela, mais ça m'a beaucoup servi 20 ans plus tard. Alors, si vous avez une NEG, voici les mots que vous pouvez numéroter ou entourer. Il dit ici, pour marcher d'une manière, je commence au verset 10, Colossiens 1, 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, voici maintenant les quatre choses. Portant des fruits, ça c'est la première chose. Vous pouvez mettre numéro 1 à côté du mot portant. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et maintenant la deuxième chose, croissant par la connaissance, ça serait la deuxième chose. Croissant par la connaissance de Dieu. Troisième chose, au verset 11, au début du verset 11, fortifié à tous égards. On n'a pas ici étant fortifié, mais nous avons la même idée. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, et ça, il continue à développer cette idée jusqu'à il arrive au début du verset 12. Rendez grâce au Père. Ça serait donc la quatrième chose. Est-ce que vous les avez? Portant des fruits, croissant par la connaissance, fortifié à tous égards et rendez, verset 12, grâce au Père. Nous avons donc deux au verset 10, un au verset 11 et un au début du verset 12. Et nous avons vu la dernière fois que cette prière pour un discernement spirituel qui façonne notre comportement de chrétien, procure le plaisir de Dieu et sans tarder l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole, il nous donne quatre caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu. Donc l'apôtre prie au verset 10, hein, il dit, Seigneur, aide-les pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, et puis développe ce qu'est une vie qui lui est entièrement agréable. On peut penser à ces choses comme les preuves d'une croissance dans l'Évangile. Ces quatre participes sont au présent, ce qui veut dire que ce sont des choses qui continuent, en fait, qui ne s'arrêtent pas, qui sont toujours en mouvement. C'est des actions qui continuent, portant du fruit, croissant dans la connaissance de Dieu, étant continuellement fortifiés par sa force. Et 12, rendant continuellement grâce au Père. Ce sont les quatre choses qui doivent définir notre vie de croyant. Voici donc le plan du serment. Regardons donc la première chose, et je vais le mettre comme une prière, hein, parce que c'est dans le contexte d'une prière. Donc la première chose que nous pouvons dire, c'est priant pour des vies qui plaisent à Dieu. Hein, chaque fois, nous allons voir la même phrase au début. Mais des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ça devrait être une requête de prière pour nous le matin. Seigneur, je veux une vie qui te plaise. Aide-moi donc à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est le verset 10 au milieu, hein? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, ironie du sort, car nous avons tendance, en tant que chrétiens, à considérer les bonnes œuvres comme quelque chose à éviter. Et nous devons en fait éviter les bonnes œuvres comme un moyen d'aller au ciel. Romains 3, 20, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, personne. Ou Galates 2, 16, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, les bonnes œuvres ne nous sauvent pas, mais les bonnes œuvres sont une preuve nécessaire du vrai salut, comme dit Jacques 2. Il le développe en fait, l'épître de Jacques, chapitre 2, cette idée assez longuement. Il dit au verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Cette foi, c'est-à-dire une foi sans les œuvres, peut-elle le sauver ? Et la réponse est non. Et puis dans Éphésiens chapitre 2, peut-être vous connaissez ce passage par cœur, c'est la pierre angulaire de l'explication du salut par la foi et par la grâce donnée par Paul. Mais écoutez où il va avec tout cela. Car c'est par la grâce, je lis Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Vous voyez, il dit, ce n'est pas par les œuvres, et tout de suite après, mais nous sommes créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tite, chapitre 2, verset 14, dit que les bonnes œuvres sont l'intention et le fruit même de l'expiation de Christ. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Écoutez ceci, pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Et zélés, pourquoi? Pour de bonnes œuvres, pour les bonnes œuvres. Éphésiens 10, 24 dit que nous devons nous exciter ou nous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc nous voulons prier que nous ayons des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais voici ma question. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre ? Est-ce que vous pouvez définir dans votre tête qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Est-ce que c'est lire la Bible? Est-ce que c'est servir dans la garderie? Est-ce que c'est faire le ménage au temple? Je crois que nous avons un élément de réponse si nous regardons au chapitre 3. Est-ce que vous pouvez tourner la page peut-être, Colossiens chapitre 3 et le verset 9. Colossiens 3, verset 9. Il dit ceci, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Vieil homme, c'est l'homme avant le salut. « Vous étant dépouillés de l'homme, du vieil homme et de ses œuvres. » Vous voyez, il y a des œuvres qui appartiennent au vieil homme. Et verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau. Et nous pouvons présumer que le nouvel homme a aussi des œuvres, comme a eu le vieil homme. Et en fait, si vous regardez verset 12, Colossiens 3, 12, vous verrez ses œuvres. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, voici des choses qu'il faut. L'homme nouveau doit se revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. J'espère qu'il y en a certains du Grand Roissy qui reconnaissent ce passage. Donc, quand nous prions pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, nous devons prier pour ces choses. Ce sont les bonnes œuvres qu'il faut revêtir, comme il dit, revêtez-vous de ces choses. Mais attention, écoutez bien, une bonne œuvre n'est pas simplement le contraire d'une mauvaise œuvre. Pour vous montrer ceci, peut-être vous pouvez trouver Matthieu chapitre 7. Hein? Gardez la place, mais Matthieu chapitre 7 et verset 23, c'est le sermon sur la montagne que Jésus a prêché. D'ailleurs, il a prêché assis, hein, comme moi je suis assis à l'instant. Et il dit à la fin de ce message, Matthieu 7, verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous, Osterwald dit, vous qui faites métier d'iniquité. C'est leur métier, c'est ce qu'ils font. L'iniquité. Ça, ce n'est pas des bonnes œuvres. Mais quelles sont ces mauvaises œuvres que font ces gens? Reculez de deux versets, Matthieu, donc 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas, par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, notez-le bien, ils appellent Jésus Seigneur, Seigneur. Ils prophétisent en son nom, ils font beaucoup de miracles par son nom. Alors, pour nous, c'est la preuve ultime que quelqu'un est réellement un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, si vous voulez, il fait des miracles. Et Jésus dit qu'il commet de l'iniquité. Donc, vous voyez, une bonne œuvre n'est pas simplement le contraire d'une mauvaise œuvre. On peut faire de bonnes choses, comme des miracles prophétisés en son nom et dire « Seigneur, Seigneur, à Jésus-Christ » et être caractérisé par Jésus comme étant des faiseurs d'iniquité. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est l'iniquité? Ben, la phrase juste après ce critique, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui construisent chacun sa maison. C'est une histoire que j'espère vous, les enfants, vous connaissez bien. Et ce qui est fort intéressant, c'est que la différence entre ces deux constructions, rappelez les enfants, la différence n'est pas la maison elle-même en fait. Ce n'est pas la taille de la maison. Une maison est grande, notre maison est petite. Ce n'est pas le type de construction, ce n'est pas le matériel utilisé, etc. Ces deux maisons dans l'histoire que Jésus raconte sont peut-être identiques. En fait, On ne sait pas car l'intérêt de Jésus ne porte pas en fait sur la maison elle-même. Elle se porte. La grande différence se trouve dans la fondation. Et le premier, il a bâti sa maison sur le roc. Et le second, les enfants, il a bâti sa maison sur quoi ? Sur le sable. Et c'est pour cela que Jésus dit que tout ce qu'ils font, c'est de l'iniquité. Donc, vous voyez, une mauvaise œuvre est une œuvre quelconque qui n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Jésus dit que c'est inique, c'est péché d'essayer d'utiliser nos propres bonnes actions comme une base sur laquelle nous pouvons construire notre argumentation pour être accepté par Dieu. Si moi j'essaye d'arriver au ciel sur mes bonnes œuvres, je fais par ces œuvres un péché, je fais l'iniquité. Il est immoral de se servir de nos œuvres, même les plus belles, pour nous faire bien paraître aux yeux de Dieu ou des hommes. Alors, une bonne œuvre pour laquelle l'apôtre prie doit être le contraire de cela. Doit être toute œuvre, toute parole, toutes ces actions qui sont en fait motivées par la grâce et qui pointent loin de nous vers l'œuvre et la valeur de notre Sauveur. Et Jésus l'a dit dans ce même serment sur la montagne, il a dit que vous devez laisser luire votre lumière afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie qui ? Votre Père qui est dans les cieux. Donc une bonne œuvre, on peut faire, deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Jésus regarde une comme une bonne œuvre et l'autre comme une mauvaise œuvre parce que une pousse les gens à glorifier le Père et l'autre attire la gloire vers soi-même. Toutes ces bonnes œuvres donc sont accomplies pour la gloire de Dieu et en interaction aussi avec d'autres personnes dans la communauté. Ce sont les contextes dans lesquels ces exhortations, ces prières ont été écrites dans le contexte de la communauté. Donc nous devons prier pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Comment porter du fruit ? Ça, c'est une autre image qui est utilisée ici en Colossiens. Porter du fruit, ça nous fait penser à un arbre. Mais Jésus a dit en Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé au terre ne meurt, s'il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut qu'il meure. Et à la fin du Colossiens 1, si vous revenez vers le texte, Colossiens 1, 24, maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. Par ma souffrance, il dit, je complète ce que Dieu m'a donné à faire. Dieu veut que nous témoignions de la mort du Christ par notre façon même de vivre. Et souvent, le dessein de Dieu pour nous est que nous souffrions afin de rendre notre témoignage plus doux, notre témoignage à la vérité de l'Évangile plus doux et même attirant aux gens. C'est en écrasant souvent la fleur que l'odeur sorte. Et Dieu, quand il nous serre de près, quand il nous fait souffrir, que nous portions souvent plus de fruits. Alors, nous prions pas souvent de telles prières, hein. Seigneur, aimons-moi s'il faut pour que je puisse porter plus de fruits, car cela nous met mal à l'aise. Nous prions trop souvent que Dieu nous donne une bonne journée, qu'il nous guérisse, qu'il nous donne ceci ou cela. Mais nous devons prier pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, même si porter du fruit exige que Dieu doit nous émander, comme il dit en Jean chapitre 15. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, on avance à la deuxième chose. Trouvez-le avec moi dans votre Bible. Verset 10, Colossiens 1, 10. « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. » Et voici la deuxième chose. « Croissant par la connaissance de Dieu, ou dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire croissant dans la connaissance de Dieu, c'est une autre traduction, ou croissant, le Martin dit simplement croissant en la connaissance de Dieu. On peut le dire comme ceci, priant pour des vies qui plaisent à Dieu en croissant dans la communion avec Dieu. Il y a deux idées ici, l'idée de croître et puis l'idée de communion ou connaissance. Et encore, c'est une image, les enfants, c'est une image tirée des cultures, comme un arbre qui donne le fruit, nous devons porter du fruit, et ici, comme croissent les plantes, nous devons croître. Nous voyons les fleurs qui croissent, qui grandissent. Nous voyons le blé, nous avons du blé derrière nous, qui est en train de grandir dans les champs. Et la première fois que ce mot « croître » est utilisé, c'est en Matthieu 6, 28, où Jésus dit « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs, les lys des champs. » Alors le mot « est aussi utilisé pour de l'enfant Jean-Baptiste en Luc 1, 80 et de l'enfant Jésus-Christ en Luc 2, 40, où il dit « Or l'enfant croissait et se fortifiait. » Donc de même que les lys des champs croissent, que des enfants grandissent, Dieu veut aussi que nous croissions. C'est l'œuvre en fait de Dieu pour nous faire croître. 1 Corinthiens 3, 6, Paul parle et dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait, et c'est ce même mot, Dieu a fait croître. » Donc, résister à la croissance de Dieu dans nos vies, c'est résister à Dieu. C'est pas indifférent parce que Dieu est en train de nous faire croître et résister, c'est résister à Dieu. C'est pour ça que Philippiens 2, verset 12 dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Vous voyez, il est en train de travailler en vous, produire le vouloir et le faire. Donc, vous devez agir avec crainte là-dessus. On ne peut pas le prendre à la légère. Notre croissance spirituel. Dieu ne pousse jamais sur pause dans notre croissance. Toute chose, tout le temps, concourt au bien. Et le bien, c'est notre croissance dans l'image de Jésus-Christ. Parfois, on est un peu triste de voir notre bébé grandir, mais les parents seraient alarmés si leur enfant cessait de croître. Que ce soit physiquement ou intellectuellement, dans tous les sens. Mais croître en quoi ici? J'ai dit, il y a deux idées. Il y a l'idée de croître en croissant. Mais vous voyez, j'ai mis croissant dans la communion avec Dieu. Alors, j'ai choisi le mot communion pour résumer le mot connaissance. Dans la Bible, vous avez ce mot connaissance, dans la connaissance de Dieu. Mais j'ai choisi le mot communion pour souligner le fait qu'une connaissance d'une personne implique toujours une communion, une relation avec lui, tout le temps. Connaître Dieu, c'est pas connaître des faits. Connaître Dieu, c'est être en communion avec lui. Et d'ailleurs, quand Jésus dit, vous n'avez pas besoin de le rechercher, mais vous vous rappelez quand Jésus a dit en Matthieu 7, verset 23, « Je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Écoutez, vous avez entendu ce qu'il a dit? « Je ne vous ai jamais connu. » Jamais connu, Jésus dit ça. Alors, ça ne signifie évidemment pas qu'ils n'avaient aucune conscience intellectuelle de leur identité ou de leur situation. Jésus dit, mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu auparavant. Non, c'est pas ça. Quand il dit, je ne vous ai jamais connu, il parle d'une relation avec ces personnes. Il n'a jamais eu cette relation avec eux. Romains 8, 29 dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Vous voyez, connaissance encore, cette relation. Mais Jésus, mais à certains, Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Et c'est la même chose dans le sens inverse. Jésus nous connaît, c'est plus qu'intellectuel, mais nous de connaître Jésus, nous de connaître le Père, c'est plus aussi qu'une chose intellectuelle. Nous pouvons avoir plein d'informations sur Jésus, plein d'informations sur Dieu le Père, connaître les questions et les réponses du catéchisme sans jamais le connaître dans le sens biblique. La connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi morale et spirituelle. C'est pour ça que nous voulons des vies qui plaisent à Dieu en croissant dans la connaissance, ce type de connaissance, la communion, la relation avec Dieu. Il avait déjà utilisé le mot au verset 9. Regardez le Colossiens 1:9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et il dit ici, puissiez-vous avoir des vies qui grandissent, qui croissent, qui progressent toujours dans la connaissance de Dieu. Éphésiens 1, verset 17, dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle et vous le fasse vraiment connaître. Là aussi, c'est une connaissance personnelle de Dieu. Philippiens 1, verset 9, Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en connaissance. Et puis Philippiens chapitre 3, à partir du verset 9, l'apôtre dit qu'il veut dans ce jour-là être trouvé en lui, en Christ, non pas avec sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, ainsi je connaîtrai Christ. Notez la sorte de connaissance qu'il recherche. Connaître Christ, pour Paul, c'est quoi? La puissance, connaître la puissance de sa résurrection. Vous voyez, ça c'est une connaissance intime, c'est une connaissance en expérience. Je veux connaître Christ, je veux connaître sa puissance. Et la communion même de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort et puis il dit dans sa résurrection. Donc, connaître Dieu, c'est connaître la puissance de la résurrection. Ça, c'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. Et c'est même connaître la communion de ses souffrances. Ça, c'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. Donc, quand il dit que vous croissiez en connaissance, c'est dans cette communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il prie. Notre orthodoxie, c'est-à-dire notre bonne doctrine, doit se traduire en doxologie, c'est-à-dire la louange et la communion avec Dieu, en une communion qui lui rend hommage. Et c'est un danger, je parle aux jeunes ici, c'est un danger pour un jeune de grandir avec la connaissance intellectuelle de la Bible sans jamais connaître Dieu. C'est super dangereux. Parce qu'il va finir par croire qu'une telle connaissance relationnelle n'est même pas possible. Il va croire qu'il connaît tout ce qu'il y a à croire et qu'il n'y a rien là-dedans. Et c'est une arrogance absolue de croire que nous sommes allés à l'extrémité du possible dans ce qu'est la connaissance de Dieu. Que si moi, je n'ai pas de relation intime avec Dieu, le Créateur, que personne ne peut avoir une telle relation. Mais il y a beaucoup de jeunes qui grandissent comme ça. Ils disent, mais j'ai connu, j'ai tout connu. Et il n'y a rien. Mais ils n'ont jamais connu, en fait, Dieu de cette façon relationnelle. Et la faute n'est pas avec la connaissance, la faute est avec eux. Tozer a dit, ce qui vous vient à l'esprit, il dit comme c'est, ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Un de toutes les choses qu'on pourrait dire de nous, ce que nous savons, notre éducation, etc. Il dit la chose la plus importante, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu. Notre connaissance de Dieu, notre pensée de Dieu, définit en fait qui nous sommes. Et l'évangile progresse lorsque nous portons des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres et lorsque nous avons une communion croissante avec Dieu. J'avance maintenant à la troisième chose. Il dit, regardez vos Bibles, portant du fruit, hein, croissant par la connaissance de Dieu. Et puis il dit au verset 11, étant fortifié. Fortifié. fortifié par lui. Nous pouvons le dire ainsi, hein, pour le rendre comme une prière, priant pour des vies qui plaisent à Dieu en étant animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Ça, c'est une autre traduction de ce verset. Étant animés d'une puissante énergie. Colossiens 1, 11, fortifié à tous égards ou fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse ou fortifié pleinement à mesure de sa puissance glorieuse ou animé d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Littéralement, c'est, il y a le mot tout en grec et puis dunamai, dunamenomois. C'est-à-dire, on connaît peut-être le mot dunamis. Et c'est dans la forme verbale et puis dans le nom. C'est-à-dire, en toute force étant fortifié. On peut le dire ça comme ça. En toute force étant fortifié. La force qui nous fortifie, c'est quoi? C'est sa puissance glorieuse ou la puissance de sa gloire, comme je l'ai mis ici. Cette puissance, la puissance qui nous fortifie est assez puissante pour ramener un homme à la vie après avoir été écrasé par le poids du péché du monde. Complètement écrasé par le péché du monde et par la colère de Dieu. Et cette force de Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est la plus grande, donc, puissance imaginable. C'est Dieu lui-même, il est juste à côté de nous. En fait, il est en nous pour nous fortifier. Cette puissance de résurrection, nous l'avons. Il dit pas fortifiez-vous vous-même. Hein? Il dit pas allez, faites mieux. Non, il dit vous soyez toujours en train de recevoir cette puissance de Dieu lui-même. Alors, cette puissance de résurrection n'est pas démontrée de manière typique de nos jours par des miracles ou même par des mouvements étonnants de la providence divine. Ça arrive parfois, mais comment est-elle démontrée? Comment est-ce que cette grande puissance de Dieu est démontrée? Regardez le verset, regardez-le. Colossiens 1, 11. Fortifié en toute force, tous égards, par sa puissance glorieuse. Ah, on sort qu'éclat, quoi! Qu'est-ce qui va démontrer la puissance? Faut le voir, hein, sinon vous allez peut-être pas le croire. En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Cette force immense nous est donnée pour nous rendre persévérants et patients. Et si vous avez essayé d'être persévérant et patient dans votre propre force, vous savez qu'il faut une puissance plus grande que la vôtre. C'est la force de résister en fait à cette pression qui nous vient de l'extérieur, cette pression de s'arrêter, mais nous persévérons, ou cette pression de nous éclater, mais nous restons patients. Persévérant, patient, par sa puissance glorieuse. Ce pouvoir se manifeste dans la persévérance, dans la patience, dans la piété de croyants comme vous et comme moi. C'est la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre en vous et en moi. Lorsque nous continuons à marcher, vous voyez, les marcher d'une manière digne, et nous continuons à marcher, lorsque nous supportons les épreuves, lorsque nous regardons le péché, la tentation en face et que nous les combattons par la grâce de Dieu, nous refusons de céder. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Lorsque nous souffrons longtemps avec une maladie ou une douleur physique ou relationnelle ou émotionnelle et nous persévérons malgré toutes ces difficultés longtemps, c'est lorsque nous restons très patients avec ce qui nous énerve et nous énerve et nous énerve. C'est la puissance de la résurrection qui est à l'œuvre en nous. Et nous devons prier cela les uns pour les autres. C'est une requête de prière que nous soyons fortifiés par sa grâce pour être persévérants et patients. Ça, c'est une vie qui plaît à Dieu. Donc, prions pour des vies qui plaisent à Dieu en étant animés d'une puissante énergie par la vigueur de sa gloire. Que nous soyons fortifiés pour rester, pour ne jamais se lasser et pour être ainsi pris dans les pièges du diable. Et n'oublie pas qu'il s'agit de demandes permanentes, hein, parce que la force d'hier ne sera pas suffisante pour les besoins d'aujourd'hui. Le déconfinement arrive et nous aurons besoin d'autres forces. À chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour suffit sa force et il nous faut de nouvelles forces chaque jour. Il faut qu'il nous renouvelle, en fait, nos forces, comme dit la Bible. Prions donc tout le temps pour cette force. Prions pour que nous soyons fortifiés les uns les autres par sa puissance divine. Alors, j'avance pour nous donner le dernier, le quatrième caractéristique. Qu'est-ce que c'est? On a dit, d'abord, portant du fruit, croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié, ça continue, hein, des actions continuelles, par sa puissance glorieuse pour être rempli en toute patience et de douceur. Et puis, ça va aussi avec, hein, rendant grâce au Père. Rendant grâce au Père. Priant pour des vies qui plaisent à Dieu en rendant grâce continuellement à Dieu, en rendant continuellement grâce à Dieu. Et vous avez cette phrase « avec joie ». Alors, c'est pas sûr si ça va avec patience et persévérance ou avec rendre grâce. On les trouve dans les deux domaines et les deux sont vrais. Mais nous pouvons penser à ceci aussi. Avec joie rendant grâce. Il parle de vie marquée par la gratitude, la reconnaissance est un thème récurrent en Colossiens. Regardez vite ces quelques versets. Le chapitre 1, verset 3, Paul remercie Dieu pour la croissance de ses croyants. Et puis au chapitre 2, verset 7, il leur dit de continuer à vivre en Christ, que ça, une partie de cela c'est déborder en reconnaissance, hein. Regardez Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions que vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Voyez cela? Et puis Colossiens 3, nous avons cité ça tout à l'heure, mais revenez à cela. Colossiens 3, 15, 16 et 17 est un trio de versets où Paul dit que la paix de Christ doit régner dans nos cœurs, que la parole de Christ doit habiter pleinement en nous et que nous devons faire tout au nom de Christ. Et à la fin de chacun de ces versets, il y a une exhortation à rendre grâce. Regardez le Colossiens 3, 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps régnant dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Ou une autre traduction dit sous l'inspiration de la grâce, une autre traduction, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Le Darby a ceci, dans un esprit de grâce. Parce que grâce ici fait référence au fait que nous rendons grâce à Dieu. Donc, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et puis le troisième verset, verset 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez l'importance de la reconnaissance, trois fois, trois versets de suite. Et puis Colossiens chapitre 4, verset 2, persévérez dans la prière. Veillez-y avec quoi? Action de grâce. La prière est stimulée en partie par des actions de grâce. Parce que quelqu'un vous a dit, vous a jamais dit, mais arrêtez de rendre grâce tout le temps. Probablement pas, ça m'est jamais arrivé. Nous pouvons croître dans ce domaine. Et lorsque nos cœurs sont pleins de gratitude, il y a en fait peu de place pour les péchés qui nous assaillent si facilement. Hein. Mais il faut que notre coupe soit pleine quand même. Nous sommes comblés en Christ, mais nous oublions souvent que nous le sommes. Nous ne l'invoquons pas comme nous devons. Nous ne reconnaissons pas, humblement et sans aucune gêne que nous n'avons rien fait pour nous sauver du domaine des ténèbres, que tout cela relève de la grâce, et pas seulement le jour où nous nous sommes sauvés, mais même aujourd'hui, c'est toute la grâce de Dieu. Nous devons donc rendre continuellement grâce, les remerciements à Dieu pour la grâce qu'il nous a démontrée. La colombe dit, le rend ainsi, verset 12, « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Vous voyez, c'est pas un remerciement forcé, comme un enfant qui doit dire merci après le repas, qui n'a pas apprécié. Hein, c'est une action de grâce joyeuse et spontanée à cause de ce qui est en nous. Et rendre grâce pour quoi? Rendre grâce pour quoi? Eh bien, il a bouclé la boucle, si vous voulez, en revenant à l'Évangile. Rendre grâce pour le fait que nous partageons, regardez-le, verset 12, nous partageons l'héritage des saints dans la lumière. C'est pour cela, pas parce que Dieu m'a donné une quatrième voiture, mais que je partage l'héritage. Dieu le Père nous a qualifiés, il nous a jugés dignes, il y a fait tout ce qui est nécessaire pour que nous ayons la vie. Nous n'avons pas la vie, nous étions morts par nos offenses et il nous a donné tout cela pour nous faire ses enfants. Comment nous a-t-il qualifiés? Regardez le verset 13, Colossiens 1, 13. Tout ça fait partie de rendre grâce. Pourquoi? Eh bien, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13, il dit que nous sommes sauvés des ténèbres. Nous avons été sauvés. Ça devrait vous remplir de joie. Et ce salut ne pourra jamais nous être enlevé. C'est pas quelque chose de temporel, car non seulement a-t-il sauvé ceux qui mettent leur foi en lui, mais il nous a relocalisé, si vous voulez, de façon permanente. Il nous a transféré dans le royaume de son propre Fils bien-aimé. Nous sommes maintenant citoyens du royaume de Christ. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi c'est pas banal ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement important d'être apporté, d'être transporté dans le royaume de Christ? Parce que le verset 14, ce Fils bien-aimé est celui en qui nous avons la rédemption, la liberté, la libération. Quel genre de liberté? Ben, le pardon des péchés. Vous voyez ça au verset 14? En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parce qu'il m'a pardonné. Je suis assuré d'avoir cet héritage éternel dans la lumière et non dans les ténèbres. Je ne serai plus jamais enchaîné par cette autorité active qui s'oppose à Dieu depuis la chute dans le jardin. J'étais enchaîné par le péché et maintenant je suis libre. Et cet héritage, bien qu'il soit dirigé vers le futur à venir, il ne sera réalisé que dans l'éternité, c'est une réalité présente. Il dit en qui nous avons actuellement la rédemption, le pardon des péchés. Il dit pas nous aurons un jour le pardon, nous avons maintenant le pardon de nos péchés. Notre plus grand besoin, c'est le péché. Notre plus grand problème, pardon, c'est le péché. Et donc notre plus grand besoin, c'est d'un sauveur de ce péché. Et nous l'avons en Jésus-Christ. Regardez, pour clore Colossiens 2, verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes, dit la NBS, vous êtes comblés en lui. Une autre traduction dit, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Comblés en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas besoin, mes chers amis, de découvrir quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas à la recherche de quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas besoin de commencer à faire quelque chose de cool ou de moderne dans nos églises. Nous avons besoin de réaliser tout ce que nous avons déjà en Jésus-Christ, que nous sommes déjà comblés en Christ. Voici donc la croissance dans l'Évangile. Voici une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie, je vais chercher le verset, c'est une vie qui porte des fruits. C'est une vie qui est en train de croître dans la communion avec Dieu. C'est une vie animée par une puissante énergie. Et c'est une vie qui rend continuellement grâce à Dieu. Ça, c'est une vie. Si nous marchons selon ces choses, nous lui serons entièrement agréables et nous-mêmes, nous serons entièrement satisfaits avec Christ et notre communion avec lui. Ça, c'est la croissance de l'Évangile. Alors, est-ce que vous croyez que c'est encore possible pour vous? Peut-être vous dites, mais moi, je suis arrivé à un plateau et franchement, ma vie spirituelle, elle ne va pas aller plus loin. Même les chrétiens peuvent être remplis de doutes au point ils se demandent si vraiment leur vie de communion avec le Seigneur puisse améliorer. Et ils perdent tellement l'espoir qu'ils ne tentent même pas d'avoir une vie plus riche de communion. Nous sommes en guerre. Ces choses ne sont pas automatiques. Nous devons nous mettre à la prière. C'est une prière que nous devons faire au Seigneur. Et nous pouvons avoir la confiance que si Dieu le veut pour nous et si sa puissance nous est disponible, nous pouvons avoir cette vie. Alors, mes amis, arrêtons, je le dis à moi-même, arrêtons d'être satisfaits avec une vie médiocre. Arrêtons d'être satisfaits en disant « Je t'aime Seigneur, mais je ne vais pas plus loin dans ma vie ». Arrêtons de ne gaspiller le temps à chercher les choses de ce monde. Cherchons de tout cœur le Seigneur. Prions sérieusement pour qu'il nous remplisse de ces choses, pour que nous puissions vivre la vie comblée que nous avons en Jésus-Christ. Et puis cette prière biblique va nous orienter vers une vie qui compte vraiment. Est-ce que vous voulez gaspiller votre vie? Eh bien, voici la boussole par laquelle nous devons naviguer dans notre vie. Nous devons laisser des passages comme celui-ci nous orienter dans la façon que nous choisissons de vivre, les choix de tous les jours. Est-ce que ça va m'aider avec ces quatre choses? Est-ce que je vais pouvoir croître dans ces choses? Et souvenez-vous que vous n'avez pas à produire ces choses vous-même. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle est pour tous les chrétiens, hein? Même les chrétiens depuis 30 ans. La bonne nouvelle, c'est que vous ne produisez pas cette force. Mais il faut être prêt à se mettre au travail. Il faut être prêt à chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Il faut être prêt à prier, à supplier le Seigneur pour ces choses. Et c'est quelque chose qui vaut la peine de vivre. C'est la chose, c'est la seule chose qui compte vraiment. Le monde ne changera jamais. Confinement, déconfinement, virus, pas de virus, le monde sera toujours ennemi de Dieu. Il s'opposera toujours à la vérité. Mais nous, même dans le monde, nous pouvons croître en Jésus-Christ. Alors avant de prier, je vous dis, est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est votre désir? Et à vous qui avez jamais connu le Seigneur Jésus, jamais connu une relation avec lui, jamais connu personnellement son amour et ce que c'est d'aimer pleinement le Seigneur Jésus. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, Jésus-Christ vous tend ses bras bien ouverts et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ne tardez pas parce que nous ne savons pas quel jour sera pour nous le dernier jour avant d'entrer à l'éternité. Et je suis sûr que vous ne voulez pas entendre ces paroles. Venant de la bouche de Jésus, je ne vous ai jamais connu. Nous voulons connaître Christ et encore mieux être connus par Dieu. Prions maintenant le Seigneur. Ô notre Père Céleste, nous te remercions que l'Évangile est une puissance active et actuellement à l'œuvre dans ce monde, car toi, Dieu, tu es vivant. Toi, Dieu, tu as toute la puissance. Tu as la puissance qui a créé ce monde. Tu as la puissance qui soutient ce monde. Tu as la puissance qui a ressuscité d'entre les morts le Seigneur Jésus-Christ. Et tu veux nous fortifier par cette puissance glorieuse. Et nous prions que nous puissions connaître cette force pendant cette semaine et vivre une vie de victoire pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui se trouvent peut-être même terrassés par leur faute ou par le découragement, qui puissent sentir ta main qui les relève, qui les remet sur les pieds, qui leur dit d'avancer, pas seul, mais avec Jésus-Christ comme bon berger. Et nous prions que tu nous aides, que tu travailles en nous le vouloir et le faire, de marcher dans ta volonté, de faire ce qui te plaît et d'avoir une vie qui t'est entièrement agréable et que nous puissions, je prie pour chacun qui écoute cette prière, qu'il puisse connaître la joie que c'est de grandir en Jésus-Christ. Cette joie indicible et pleine de gloire. Et nous attendons le jour où nous serons pleinement comme Jésus-Christ, car nous le verrons tel qu'il est. On sauve aussi le pécheur qui tourne son dos à toi, qui cherche à connaître plus les plaisirs de ce monde, mais qui fait face à une éternité de ténèbres et d'enfer. Et pitié pour ta gloire et pour son bien, nous prions. Au nom de Jésus le Sauveur. Amen.